soir, la RDC annonce le début de la construction en 2015 d'une centrale hydroélectrique la plus grande du monde à Inga sur le fleuve Congo. Baptisée Grand Inga, cette centrale qui sera construite en collaboration avec l'Afrique du Sud aura une capacité de production de 40 000 MW capable de desservir la moitié de l'Afrique en électricité. Comment analyser ce projet? Quel pourrait être son impact dans le développement de la RDC? Voilà le thème de Dialogue entre Congolais de ce soir. Nos invités dans cette émission sont Bienvenue Marie Bakoumania, directeur de la rédaction en charge de l'économie et des investigations au groupe de presse Le Potentiel. Monsieur Bakoumania, bonsoir.
Bonsoir, cher confrère.
Ingénieur Victor Kendi, ingénieur en génie civil, et il est expert en hydroélectricité, ponts et chaussées. Ingénieur Kendi, bonsoir. La réalisation me signale qu'on ne l'a pas encore. Michel Somoué, est-ce qu'il est en ligne? Lui, il est économiste et expert indépendant. Michel Somoué, bonsoir. Non plus, il n'est pas encore en ligne. Ils vont nous rejoindre dans un tout petit moment. À tous, bienvenue dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Projet Grand Inga, les tractations continuent pour sa mise en œuvre. Le week-end dernier, la République démocratique du Congo et la République sud-africaine s'étaient réunies à Paris en France avec des investisseurs. On écoute le ministre congolais des ressources hydrauliques et électricité donner quelques détails sur ce projet. Bruno Kapanji est au micro d'Innocent Olinga.
Donner au gouvernement à réaliser consiste à réhabiliter ce qui existe déjà. Inga 1, Inga 2, Zongo 1, tout ça. Ces travaux sont en cours. Mais ça consiste aussi à construire de nouvelles infrastructures parce que celles qui existent ne donnent que de l'électricité qu'à 9% de la population. Il faut construire de nouvelles pour satisfaire la demande des industries, la demande des populations, la demande de l'administration. C'est pour ça qu'il y a Zongo 2, il y a Katende et il y a Kakobola. D'autres vont encore venir dans le cadre de la libéralisation du secteur de l'électricité. Donc, ce n'est pas qu'il trop embrasse. Maintenant, Inga vient. Pourquoi? Inga, c'est vraiment notre plus grand fournisseur de ressources durables dans notre pays. Surtout que nous avons un acheteur stratégique qui est l'Afrique du Sud dans le traité de coopération énergétique avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud s'est engagée à acheter sur la première phase de Grand Inga, c'est-à-dire Inga 3, sur les 4800 MW à produire, l'Afrique du Sud s'est engagée à acheter 2500 MW. Les 2300 qui restent, c'est pour nous. Ça va servir le développement de notre pays. Maintenant, concernant le coût de Grand Inga, à terme, va atteindre à peu près 80 milliards de dollars. Mais ça pourra être moins, comme ça pourra être plus, mais ce sont les études qui vont le démontrer. Aujourd'hui, ce sont les estimations des experts. Mais pour Inga 3 et ligne associée, le coût est de 14 milliards de dollars. Et c'est la BAD, la Banque africaine de développement, qui a accordé à la République démocratique du Congo un don de 14 millions et demi pour réaliser les premières études.
C'était Bruno Kapanji, ministre congolais des ressources hydrauliques et électricité, qui intervenait au micro d'Innocent Olinga. Ingénieur Victor Kendi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur en génie civil, également expert en hydroélectricité, ponts et chaussées. Comment vous accueillez ce projet de Grand Inga?
Merci beaucoup. Je suis très heureux que ça soit vite arrivé. Nous le disions la semaine passée avec mon compatriote Lelo Maïchapé.
J.R. Lungembo dans l'émission Parole aux auditeurs.
Pour dire qu'à un moment donné, lorsque les ressources des autres pays ne servent pas aux autres qui n'en ont pas, eh bien ces ressources vont devenir la cause de tensions entre ces États-là. Inga, les ressources hydroélectriques que dispose de la République démocratique du Congo, doivent servir la majeure partie de l'Afrique, surtout l'Afrique australe. Pourquoi? Parce que la position que nous tenons, d'autres pays n'ont pas cette position géographique, Nous sommes dans la cuvette centrale, nous avons des ressources hydrauliques assez importantes et nous avons beaucoup de potentialités en hydroélectricité. Et je vous l'avais dit la fois passée, c'était dans le cadre de l'émission par les auditeurs, que c'est l'électricité de source hydroélectrique qui est le moins cher possible. Donc c'est arrivé aujourd'hui et il faut qu'on le fasse. Mais qu'on ne dise pas qu'on le fait, on va le faire pour la population, mais c'est plutôt pour l'exportation. Et l'argent qu'on gagnerait de cette exportation, le Grand Inga va permettre de construire des mini-centrales à travers le pays pour servir la population. Parce que le déplacement du courant sur une très longue distance va exiger que ce soit le courant à très haute tension, courant continu, qui exige encore d'autres complexes hydro-industriels pour leur transformation, les convertisseurs, les soutirages de la conversion et de consorts. Et ce qui demande encore énormément d'argent et ce que le pays ne dispose pas. Construire le Grand Inga pour l'exportation, ça, c'est le moment. Et il faut le faire pour avoir un bon partenariat avec l'Afrique australe. Non seulement l'Afrique du Sud, mais tous les autres pays-là, parce qu'eux, ils n'ont pas la possibilité de se doter de centrales hydroélectriques capables de se doter de l'énergie dont ils ont besoin. Mais ils peuvent l'obtenir qu'à partir de nous, et nous, ça doit faire l'appel pour le développement de notre pays.
Ingénieur Kendi Akipo Kajaps, qui nous écrit de Moba au Katanga, qui dit « C'est bien d'entreprendre des travaux de si grande envergure et d'importance économique, mais ne serait-il pas plus intéressant d'améliorer la desserte en électricité qui existe pour permettre aux pauvres citoyens congolais de mieux s'en servir afin d'améliorer les conditions difficiles dans lesquelles il croupit, car le délestage lui a causé trop de tort. Pourquoi se précipiter à exporter le courant du moment que le citoyen congolais déjà n'en bénéficie pas au quotidien? »
Merci bien. Je réponds à mon compatriote en disant ceci. Inga, dès le départ, n'était pas destiné à la population congolaise non plus. On avait trompé la population du temps où on avait construit Inga. Parce que construire une centrale, transporter le courant sur de longues distances, dans le courant de nature, courant continu très haute tension, et signifie qu'à l'endroit où on doit de servir, il faut qu'il existe encore un courant qui va permettre au complexe d'étapetage, donc de soutirage de ce courant très haute tension, et de conversion de ce courant-là pour que la population puisse l'utiliser au quotidien. Ça n'a pas été dit. Et c'est ce que nous disons. Ceux qui prennent des décisions dans notre pays n'ont pas le temps de dire à la population le bien fondé des décisions qui sont prises. Ben, ils restent dans leur bureau. Ce débat, tout le temps, nous le faisons avec ceux qui n'ont pas qualité. Les officiels n'en parlent pas. Et pourtant, ce sont ceux qui sont mandatés à expliquer à la population le bien fondé de tous les gestes, tous les projets et toutes les actions que mène le gouvernement. C'est ce que nous disons. Il n'en a jamais été fait pour la population congolaise. Elle ne le sera qu'à 30% au maximum. L'Inga doit être exporté. Nous avons d'autres sites qui nous permettent d'avoir des mini, même des grandes centrales hydroélectriques, mais c'est seulement ces sites-là qui vont être destinés à notre population. Nous devons exporter Inga pour aider nos frères africains qui n'ont pas le même potentiel que nous et qui ne peuvent trouver mieux qu'en prenant Inga. C'est ça qu'il faut dire à notre population. Et ce déplacement du courant sur de très longues distances, c'est un courant qu'on ne peut pas. Même si le pylône passe dans un village, on ne peut pas le capter dans ce village-là et commencer à servir la population non plus. Le problème, c'est un problème de communication, c'est un problème d'explication, d'être élégant avec sa population, savoir lui dire ce qu'il faut lui dire et savoir décider ce qu'il faut décider pour lui. Oui. Nous disons ce quoi? L'argent qui viendrait de Inga doit servir à la construction des autres mini centrales à travers le pays, à l'aménagement des réseaux existants et à l'amélioration de la desserte comme on le fait. Mais je veux qu'il retienne une chose, mon compatriote là. Je lui dis ceci. Il y a plusieurs projets qui ont été négociés, financés pour la réhabilitation des réseaux de distribution, mais ces réseaux de distribution n'ont jamais été réhabilités. C'est le problème qu'on a aujourd'hui. Merci. On a des réseaux dépassés, vétustes et avariés même. Et c'est là que ça pose problème. La production est là. Mais le transport jusqu'à la distribution pose problème parce que ce qui devrait être fait n'a jamais été fait.
Merci ingénieur Victor Kendi. Bienvenue Marie Bakoumania. Vous êtes directeur de la rédaction en charge de l'économie et des investigations au groupe de presse Le Potentiel. Vous venez de suivre ingénieur Victor Kendi qui pense que ce projet est opportun. Il fallait qu'il vienne pour que le courant soit exporté et que la RDC devrait partager ses ressources avec d'autres pays. Quel est votre point de vue?
Oui, tout à fait d'accord avec ingénieur Victor Kendi que cette puissance électrique qui se trouvait en forme sauvage sur les sites d'Inga, c'était une honte pour l'intelligentsia congolaise dans la mesure où on ne peut se permettre un pareil gaspillage comme on a vécu pendant des années. Mais aujourd'hui qu'on a pris l'option de valoriser le site d'Inga, on ne peut que l'applaudir, même si je ne partage pas complètement, totalement le point de vue de l'ingénieur Kendi en rapport avec les destinataires de cette production. Je suis plutôt d'avis que aujourd'hui qu'on a pris la décision d'y aller, il faut qu'on y aille, hein, parce que il faut aussi dire la vérité à la population. Même si on débute les études aujourd'hui, hein, la phase finale, ce n'est pas demain. Il faut minimum une décennie pour que les ouvrages soient prêts et pour que ces ouvrages puissent apporter des décès. Et dans l'entretemps, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les populations dans le noir, croupir dans le noir, vivre dans le noir. Hein, le taux de 9% régulièrement avancé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire avec responsabilité que la population est desservie à un taux de 9%, je suis d'avis qu'avec tous les différents problèmes que nous connaissons dans les secteurs de l'électricité, le taux doit être en deçà de 9%, le taux régulièrement a avancé. Ben, on a un potentiel de plus ou moins 106 à 106 000 mégawatts. Sur Inga, on pourra exploiter les 40 000 mégawatts, donc il va encore rester 60 000 mégawatts. C'est là que je suis d'accord avec l'ingénieur qu'il faut construire d'autres, valoriser d'autres sites hydroélectriques qui est une électricité bon marché. Il faut les valoriser à travers le pays et permettre à la population congolaise de jouir de ces bienfaits de la nature qu'est l'électricité offerte par l'eau. Hein, cette magie qui fait que cette électricité bon marché pourrait aider à ce que nos villages puissent se développer. Selon les estimations que j'ai lues d'un expert, il faut pour la RDC plus ou moins 8 milliards de mégawatts. Hein, et là, on a pris le maximum. On a même imaginé que les trains quitteraient Kasumbalesa vers Kinshasa ou vers le Bas-Congo et que ce seront des trains qui seront électrifiés. Donc, on est allé à l'extrême et on estime à plus ou moins 8 000 mégawatts. C'est-à-dire que si l'on se met résolument au travail avec les grands Inga, la RDC ne pourra jamais absorber cette puissance. Mais je me pose la question du leadership de cet imposant, cet important projet d'investissement, parce que chat échaudé craint l'eau froide. Si on a connu un endettement important à l'époque, c'est justement parce que Mobutu s'était engagé à construire Inga 1 et Inga 2. Et nous avions à l'époque une dette de 4 milliards, hein, essentiellement provenant due à la construction de ces deux ouvrages, Inga 1 et Inga 2. Alors, est-ce que cette fois-ci, on va mobiliser près de 80 milliards? Est-ce que ceux qui vont piloter le projet se rendent-ils réellement compte du poids qu'on va léguer à nos enfants? C'est ça la grande question.
En termes de dette.
En termes de dette, exactement. Hein, parce que on ne viendra pas le construire. Si, vous avez vu, là, la Banque africaine de développement a donné 14 millions de dollars, mais on a affaire à 80 milliards. Donc, c'est pas la porte d'à côté. Et l'Afrique du Sud, qui vient travailler avec nous, qui vient en partenariat avec nous, il vient parce qu'il est dans le besoin, c'est vrai, il est dans le besoin. Et puis l'énergie nucléaire est en train de décliner à travers le monde. Cette énergie, cette forme d'énergie est décriée. Et l'Afrique du Sud voudrait avoir de l'électricité propre, comme on dit. Mais ça ne veut pas dire que l'Afrique du Sud viendrait en enfant de cœur. L'Afrique du Sud viendrait justement pour préserver ses intérêts. Et lorsque l'Afrique du Sud sait que nous avions été avec Westcor, dans un projet commun. Ça n'a pas abouti. Nous avons encore été avec BHP Billiton dans un projet commun. Ça n'a pas abouti. Et on ne doit pas se dire que les Sud-Africains sont si naïfs qu'ils viendraient à nous les bras ouverts et qu'ils ne prendraient pas de précautions. C'est là qu'il faut ouvrir l'œil et le bon.
Rigen Penda nous écrit de Guémena à l'Équateur. La RDC est vraiment championne dans des projets impossibles. Qu'ils nous disent d'abord où en sommes-nous avec les projets Pont-Route, Rail, Kinshasa-Brazza et d'autres projets avant de nous endormir avec cet autre projet. Bienvenue Marie Bakoumaï.
Non, je pense que le projet des grands Tinga Inga 3, ce ne sont pas des projets pour endormir. Le besoin est là. Le besoin est là. Si on ne le fait pas, hein, et là je suis d'accord avec l'ingénieur Victor, si on ne le fait pas, les autres viendront le prendre.
De gré ou de force.
Et nous devons anticiper et nous dire que les autres qui ont besoin de cette électricité, de cette énergie, viendront le chercher d'une manière ou d'une autre. Donc on ne doit pas déjà considérer que ce projet est mort-né et que ça ne va pas aboutir. Non, nous devons plutôt pousser. Et c'est que nous devons exiger de nos dirigeants. Ils viennent de Paris, ils ont été dans les concertations avec les Sud-Africains, personne ne fait les comptes rendus. Ça se déroule dans une opacité telle qu'on ne peut pas comprendre. Tous les médias, par exemple, les médias spécialisés en matière d'électricité n'ont même pas été associés. C'est dire que les gens veulent piloter l'affaire au gré de leurs petits intérêts. Et là, il faut que nous ouvrions les yeux et les obligions à se dévoiler et à nous dévoiler tous les méandres de ces contrats, de ces négociations. On ne doit pas assister à, encore une fois à un marché de dupes où le peuple congolais sera le force et le dindon de la face.
Michel Soumoué, bonsoir, vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Vous êtes économiste et expert indépendant. Vous venez de suivre l'ingénieur Victor Kendi ainsi que bienvenue Marie Bakoumaïa. Quel est votre point de vue par rapport au projet Grand Inga?
Je suis bouleversé. Je suis sincèrement bouleversé.
Pourquoi?
Par des vérités que vient de dévoiler publiquement notamment l'ingénieur Victor lorsqu'il dit que Inga n'a jamais été construit pour le développement du Congo, pour l'électrification du Congo, mais Inga a été construit essentiellement pour l'étranger. Je suis bouleversé par une telle vérité. J'aurais souhaité que, avant de nourrir l'étranger, que le Congo puisse d'abord bénéficier de ses ressources. C'est un schéma de développement. Je reconnais, c'est vrai, que les exportations sont aussi un moteur de la croissance économique, au même titre peut-être, mais pas au même titre tout à fait, mais disons un peu comme la consommation intérieure et comme les investissements intérieurs. Je reconnais bien cela. Mais je pense qu'il n'est pas normal que le Congo ne soit considéré que comme une bougie qui doit éternellement s'épuiser pour n'éclairer que les autres. Ça, c'est dangereux. Je dis que nous avons eu Inga 1 et Inga 2 dans ce pays. J'ai toujours décrié le fait que le courant de Inga part de Inga dans le Bas-Congo jusqu'au Katanga en traversant toutes les provinces de la République qu'il laisse dans le noir. J'ai toujours décrié le fait que les 2,345,410 km² qui constituent l'espace du territoire national congolais ne sont électrifiés qu'à 0,2%. Ce n'est pas normal. Je pense que ce n'est pas normal que l'on continue à vivre avec 6% des ménages seulement qui accèdent à l'électricité et que les 94% demeurent dans le noir, alors que nous avons Inga et nous avons tout ce potentiel de 106 000 MW dont vient de parler bienvenu tout à l'heure, 106 000 MW, mais nous n'avons des capacités installées que de 2 400 MW. Ça, ce n'est pas normal. Je reconnais que la production de l'énergie électrique dans notre pays est trop faible. Elle ne peut même pas satisfaire la demande en énergie électrique des ménages et des entreprises. Donc il faut nécessairement entrer dans tous les contrats qui permettent d'accroître la capacité de production de notre énergie électrique, parce que nous avons un potentiel qui est le plus important du monde. Ça, 6 000 MW, c'est pas n'importe quoi. Ça, je reconnais. Et j'aurais bien aimé qu'un tel projet de 40 000 MW puisse permettre d'alimenter le territoire national congolais avant d'envisager les exportations. C'est un schéma de développement. Voulons-nous constituer notre développement en partant de l'extérieur ou en commençant par l'intérieur? Voulons-nous construire notre développement en commençant par le marché mondial ou en commençant par le marché intérieur? C'est un schéma. Dans tout compte fait, je me dis que le contrat de 40 000 MW, tel qu'on vient de faire de Grand Inga, comme on fait qu'il est fait, je ne dis pas qu'il est mauvais. Je dis qu'il est bon, Mais nous devons savoir, au départ, comme a dit un intervenant au début de l'émission, il faut savoir que le principal problème que nous avons dans ce pays, c'est de desserte en énergie électrique. Il n'est pas normal que nous contemplions des lignes de Inga passer au-dessus de nos têtes et que nous demeurions dans le noir. Il n'est pas normal. C'est comme ça que les Congolais sont en train de piller les pylônes. Ils font tomber le tout, finalement, ça regarde du côté de la production. C'est parce que quelque part, c'est écœurant. Quand on est dans le noir et qu'on voit que les autres sont éclairés, ce n'est pas normal. Je pense qu'il faut inverser le schéma et faire en sorte que...
Michel Somoué. On a du mal à vous suivre. Est-ce que vous me suivez?
Moi, je vous suis 5 sur 5.
Voilà, nous vous avons perdu et on n'a pas très bien compris ce que vous disiez. La qualité de votre ligne se dégradait. Si c'est possible de bouger un tout petit peu, entre-temps, bienvenue Marie Bakoumagne, venez de citer un certain nombre de projets dans lesquels l'Afrique du Sud avait collaboré avec la RDC, mais sans que cela ne marche, la RDC, dans ce genre de projet, est-elle encore digne de confiance, Michel Nsoumoué?
Non, le problème, c'est la capacité du gouvernement de conduire les accords avec ses partenaires. On ne peut pas dire que parce que dans le passé, ça n'a pas marché, ça ne marchera plus jamais. Non, je pense que lorsque nous avons tiré les bonnes leçons du passé, nous pouvons corriger pour que l'avenir soit meilleur pour nous. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut qu'un tel contrat, parce qu'il existe, parce qu'il vient d'être conclu, vient d'être signé, je dis qu'il est bénéfique dans la mesure où nous pouvons améliorer notre capacité de production, mais je dis qu'il n'est pas normal au moment... De la distribution ou de la production d'énergie électrique, que cela soit accordé, que la priorité soit accordée à l'étranger. C'est ça que je dis. Nous devons faire en sorte que ce que nous produisons, avant que ça n'aille à l'étranger, que nous puissions être capables de pouvoir d'abord alimenter, électrifier l'espace national congolais, que nous pouvons d'abord permettre le développement de l'industrie locale, on appelle les industries de transformation, les industries structurantes, comme le gouvernement appelait. Mais c'est important. Mais si nous disons, non, nous faisons d'abord pour l'étranger, en quelle année serons-nous capables de produire pour l'intérieur? Ça, c'est un problème. Quelle est la capacité de ceux qui dirigent, de qui vont piloter le contrat, de pouvoir tirer effectivement le bénéfice de ces exportations pour que ça profite effectivement au Congo? Parce que nous savons qu'avec Inga 1 et Inga 2, nous avons fourni l'électricité à des pays voisins, le Congo-Brazzaville, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, tous ces pays, pour ne pas les citer, c'est en fait, y compris. Merci. Nous l'avons fait. Est-ce que cela a développé l'économie congolaise? Moi, je pense que nous devons aujourd'hui réfléchir deux fois pour dire... Qu'est-ce que nous devons faire pour que les ressources locales, nos ressources nationales, nos ressources naturelles, profitent d'abord essentiellement à l'économie nationale?
Merci.
C'est bon d'exporter, c'est très bon d'exporter, je n'en disconviens pas, mais on n'exporte que le surplus, on n'exporte pas l'essentiel. Voilà mon point de vue à ce sujet.
Merci Michel Nsoumoué, je vous redonne la parole dans le prochain tour de table. Ingénieur Victor Kendi, à Kazingoufou Gérard qui nous écrit de Benio Nord Kivu qui dit « Je me demande si les députés ont eu le temps d'analyser minutieusement les tenants et les aboutissants du contrat sur le projet de construction du grand barrage d'Inga, surtout que cela s'est passé en France. Qu'est-ce qui va nous prouver que ce contrat ne sera pas léonin comme d'autres déjà décrié? Bienvenue Marie Bakoumagne, a tout à l'heure parlé d'opacité et vous-même, en ce qui concerne Inga, vous avez parlé d'absence de communication. Faudrait-il s'inquiéter par rapport à cet aspect?
Oui, l'inquiétude est valable. Et moi aussi, je m'inquiète. Et d'ailleurs, je demande à notre Parlement d'organiser une rencontre, un séminaire, un atelier, une table ronde, où les experts en la matière doivent se retrouver avec le gouvernement pour que cette fois-ci, qu'elle soit vraiment la bonne. Pourquoi? Parce que ce contrat qu'on va signer, je le disais autrefois, lorsque les intérêts du Congo sont toujours à brader, les intérêts des autres sont toujours à protéger. C'est-à-dire, lorsque le Congo achète, il achète très cher, lorsque le Congo vend, il vend au rabais. Je l'ai déjà dénoncé. Et je dis présentement qu'un contrat de cette taille ne peut pas être un simple fait qui se passe entre le gouvernement, avant même qu'on ait réuni tous les experts, le Parlement réuni avec les experts. La société civile est là pourquoi? Mais je sais que la société civile est l'auxiliaire du Parlement. Le Parlement doit exiger une séance ou des séances où tout le monde doit se retrouver pour qu'on puisse analyser. Est-ce que ce INDA va être totalement destiné à l'exportation? Une partie va-t-elle être pour la consommation intérieure? Parce que je vous l'ai dit, lorsqu'on déplace le courant sur de très longues distances, on doit le faire dans un courant très tension, courant continu. Il est difficile d'être utilisé directement dans des villages. Alors, il faudrait le courant alternatif, c'est celui-là qu'on utilise directement. Alors, est-ce que tous ces paramètres sont-ils pris en compte? Est-ce que le facteur population du Congo qui doit être aussi servi est-il pris en compte? Est-ce qu'on est prêt qu'avec ce projet-là, les revenus de ce projet vont-ils permettre à ce qu'on puisse développer d'autres sources d'énergie qui vont permettre à la population d'avoir directement cette énergie chez eux. C'est l'ensemble de problèmes qu'il faut résoudre en même temps et qu'on doit signer ce contrat.
Alors, ingénieur Victor Kendi, 9% de la population seulement qui est desservie en électricité, en parlant de Grand Yenga, ça, on revient quand même à la question à cette question de desserte. Actuellement, à quel niveau se trouve le problème? Pourquoi cette desserte n'est-elle pas correctement assurée?
Oui, la desserte n'est pas correctement assurée, je le venais de le dire. C'est parce qu'on a un réseau de distribution qui est vétuste, inapproprié, inadapté et qui est vraiment dépassé. Voilà le problème. Bon, mais je sais qu'il y a eu plusieurs projets qui ont été financés, comme quoi on va faire des réhabilitations de ces réseaux de distribution. C'est ça. Monsieur, l'argent est sorti, ça a augmenté les dettes de la République, mais jamais ces travaux vont être sur le terrain. Il faut qu'on arrive à réhabiliter les réseaux de distribution pour qu'il n'y ait plus les trop grandes pertes de charges qu'on connaît aujourd'hui. C'est là le problème.
Mais certains analystes évoquent aussi le problème managérial au niveau de la Société nationale d'électricité.
Ils ont raison. Mais quand je dis qu'il y a eu des projets qui ont été initiés, financés mais non exécutés, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est assez clair.
Bienvenue Marie Bakoumania. On parle des problèmes actuellement de desserte. Quelle est la cause? L'ingénieur Victor Kendi vient de parler du réseau de distribution qui est vétuste, problème managérial au niveau de la SNEL. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter?
Tous les trois compartiments dans l'électricité sont affectés, que ce soit la production, que ce soit le transport, que ce soit la distribution. La SNEL, notre opérateur public, a des défaillances plutôt congénitales qui font que jusqu'à aujourd'hui la SNEL ne parvient pas à proposer à la population de l'électricité de bonne qualité. Déjà, Inga, combien de groupes sont en état de fonctionnement? Il faut y aller pour voir. Il y a ces groupes qui ont fonctionné pendant au-delà des heures de révision, 4 à 5 fois plus. Donc vous vous rendez compte que ces groupes qui peuvent s'arrêter à tout moment ne peuvent que donner de l'électricité de mauvaise qualité. La quantité qui est pompée sur Kinshasa, sur les autres lignes, est tellement minime par rapport à la capacité installée. Il y a ces groupes qui n'ont jamais fonctionné depuis le jour de leur inauguration. Et les ingénieurs de la SNEL qui se battent tant bien que mal, malgré un management difficile à comprendre qu'on installe des années à la tête de la SNEL, que ce soit à la Deuxième République, tout comme aujourd'hui, la SNEL est considérée comme la poule aux œufs d'or, plutôt que de mettre de l'argent, des fonds, des ressources disponibles pour les réhabilitations, on se met plein les poches. C'est une habitude qui s'est installée au sein de la SNEL et qui n'a pas changé jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, on a des attitudes qui ne cadrent pas avec la bonne gouvernance dans l'attribution des marchés à la SNEL, dans l'attribution des marchés de réhabilitation notamment. Donc c'est dire que si l'on continue sur cette même lancée, rien ne changera. Et la libéralisation qui est en cours, qui est une bonne chose en mon sens, pourrait permettre de corriger toutes ces lacunes que l'on a constatées avec l'opérateur unique, le monopolaire SNEL.
En passant, je signale que tous nos efforts pour avoir dans cette émission un délégué du ministère des ressources hydrauliques et électricité, même au niveau de la SNEL, ont été vains. Bienvenue Marie Bakoumania. Il y a Pierrot de Lumbashio Katanga qui dit: nous sommes habitués aux déclarations de nos autorités, car il n'y a pas 2 ans que le chef de l'État avait signé pour la chute de Katenda Kananga. Ça n'a pas été réalisé. Que dire de ce nouveau projet qui demande beaucoup de moyens et de temps?
Ben écoutez, cette fois-ci, on a un partenaire qui nous pousse derrière, c'est l'Afrique du Sud, qui a intérêt à ce que cette électricité bon marché lui soit fournie. Je pense qu'avec ces partenaires qui est derrière nous, derrière notre gouvernement, ils pourront assurer ensemble le leadership. Et c'est là, pour moi, la vraie inquiétude. Si l'Afrique du Sud nous pousse tel qu'elle le fait actuellement, vous vous rendez compte que le président Zuma s'est même déplacé pour pousser le président congolais à signer le protocole d'accord avec lui, c'est parce que l'Afrique du Sud est dans le besoin et dans un besoin urgent. C'est là tout le problème, parce que si la partie congolaise continue avec cette opacité que nous avons constatée, si la partie congolaise n'ouvre pas les portes et les fenêtres pour que tout le monde puisse y voir ce qui s'y déroule, je pense que nous risquons de connaître ce que déplorent ses compatriotes. Mais il est vrai aussi que, poussé par des raisons politiciennes, on a voulu faire inaugurer les barrages de Kakende, de Kakobola, par-ci, par-là, par le chef de l'État. Je pense que c'est ce qui est dans Inga, le projet Grand Inga, qui est un méga projet, un projet complexe. On ne pourra pas se donner le luxe de verser dans de telles pratiques.
Michel Soumoué, deux auditeurs pour vous, de Joe Arsène Etché Homo d'Aba en province orientale, dit: vous dites la plus grande centrale hydroélectrique du monde pour alimenter la moitié de l'Afrique, n'est-ce pas une pure et simple utopie, si pas une vantardise, car le Congolais du fin fond n'en sera jamais bénéficiaire. Pascal Kitenge de Mbanzango, au Bas-Congo, ce projet du Grand Inga est le véritable feu d'artifice destiné, tel de l'opium, à éblouir les Congolais. Moderniser Inga, c'est une bonne chose, mais sacrifier le bénéfice congolais sur l'autel des intérêts occultes est inadmissible. Michel Soumoué, très brièvement, avant qu'on aborde la deuxième partie, comment vous justifiez ce pessimisme de ces auditeurs que vous venez de suivre?
Je partage leur inquiétude à moitié, je dis. J'ai dit tout à l'heure que, là où je suis d'accord complètement avec eux, c'est qu'on ne peut pas, une économie ne peut pas fonctionner pour la satisfaction prioritaire des besoins étrangers. Une économie nationale fonctionne d'abord pour les besoins nationaux. On ne peut pas concevoir un aussi grand projet, un aussi important investissement de 80 milliards de dollars, dit-on, pour la satisfaction de l'Afrique du Sud. On devrait se battre pour que Inga profite d'abord aux Congolais, et on devrait se battre, je crois, à plein régime pour que cela soit d'abord soit une réalité. Parlez-moi là d'un projet utopique. Bon, je dis ça dépend de chacun. Pour moi, personnellement, je suis un utopiste au départ, mais je ne crois pas à l'impossible. Je pense toujours que investir 80 milliards ou mobiliser 80 milliards de dollars pour investir dans un tel projet, ce n'est pas impossible, c'est faisable. Mais tout dépend de la qualité des hommes qui vont piloter le projet, tout dépend de leur détermination, tout dépend de leur optimisme personnel au départ. Mais si nous sommes généralement dirigés par des personnes minimalistes, qui ne voient le nivellement que par le bas, qui ont peur de grandes ambitions, qui ont peur des utopies, là ça peut poser problème. Mais quant à la qualité du projet lui-même, bienvenue Makouba, il vient de le dire parfaitement bien. Il dit, nous avons, c'est le partenaire qui nous pousse dans le dos, parce que c'est à lui que va profiter le projet. Donc il est disposé à mettre tous les moyens nécessaires pour que cela se fasse. Donc ça peut se faire, parce que eux au moins ils connaissent l'importance de nos ressources naturelles. Et eux au moins ils connaissent aussi ce qu'ils veulent en faire et à quoi ça va leur servir exactement. Mais nous avons des ressources naturelles dont nous sommes un simple réservoir, de simples dépositaires qui n'en comprenons pas toujours l'importance, où on veut nous faire voir que nous n'en connaissons pas l'importance, et là c'est dangereux. Moi je pense que si le Congo pouvait mettre en place un système financier propre, capable de mobiliser 80 milliards, on ferait en sorte que les ressources naturelles de ce pays profitent suffisamment aux citoyens congolais, plutôt que de faire du Congo cette bougie qui s'éteint, je l'ai dit, qui s'épuise pour éclairer les autres. Et là, c'est pas normal, mais pas là pour faire le martyr en faveur des autres.
Alors, Michel Soumoué, d'après vous, quel pourrait être l'impact d'un tel projet dans le développement de la RDC?
Mais je dis que c'est un schéma de développement suivre que l'on peut explorer, que je trouve mauvais, schéma d'exploitation, schéma de développement, c'est-à-dire mettre votre développement sous la dépendance des exportations. Ça, c'est dangereux dans la mesure où vous accroissez l'extraversion de votre économie, surtout lorsque vous n'êtes pas capable d'assurer le contrôle des recettes d'exportation. Moi, je constate que déjà le gouvernement a pas mal de difficultés pour contrôler les recettes intérieures de l'activité. Ici, nous voyons la capacité de nos régies financières à mobiliser les ressources propres ici même à l'intérieur du pays. On voit que c'est impossible à faire. C'est un casse-tête pour ces régies-là. Mais comment allons-nous assurer le contrôle des recettes d'exportation qui sont gérées par des plus grandes puissances, des puissances plus grandes que nous-mêmes? Ça va poser beaucoup de problèmes. C'est là justement que je pense qu'il y a un problème. Le schéma de développement fondé, basé sur l'extraversion, ça dépend. Mais moi, j'aurais souhaité que, quand bien même nous pouvons trouver des moyens qu'on emprunte ou qu'on les produise localement pour investir dans la mise en valeur de nos ressources naturelles, il faudrait que nous puissions envisager, voire en priorité, la possibilité de l'expansion de notre marché intérieur. Nous devons améliorer la desserte en énergie électrique à l'intérieur de ce pays, parce que si nous avons de l'électricité à travers tout le pays, il y aura des industries à travers tout le pays, à ce moment-là, le Congo peut amorcer la marche vers la croissance véritable, plutôt qu'une croissance simplement chiffrée, qui est plutôt imaginaire, utopique. C'est là qu'il y a un problème.
Merci.
Moi, je dis, nous avons les énergies électriques, et comme je disais tout à l'heure dans notre émission, il en va de l'électrification du Congo, comme il en est exactement de la monétarisation de notre économie.
Merci.
Nous devons monétariser l'économie, nous devons électrifier le Congo, nous devons tout faire pour que cela marche en faveur de l'économie nationale. Sinon,
merci.
on est parti pour être des valets pour les autres, pour le sous-développement des autres et le développement de la pauvreté.
Merci Michel Nsomwe. Ingénieur Victor Kendi, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kalima au Maniema.
Charles Ingen à Kalima dans la province du Maniema. Nous saluons les projets de la construction du Grand Inga prévu en 2015 car à des grands mots, des grands remèdes dit-on. Mais la grande inquiétude, c'est la capacité de responsable de la FNEL de pouvoir bien gérer cette œuvre une fois achevée car les comportements managériels actuels de ces derniers ne nous inspirent plus confiance.
Réaction, ingénieur Kendi.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je partage son inquiétude. Si, d'abord, heureusement qu'il y a déjà une loi qui va casser le monopole qui était destiné à la FNEL, la privatisation du secteur, la libéralisation du secteur, et moi j'exige la privatisation sélective et rationnelle de la FNEL pour permettre à ce que le secteur soit bien libéralisé, parce que dans les chefs-lieux de province, la FNEL déjà les réseaux de distribution, il va faire valoir son droit sur ce réseau-là, ça va être un casse-tête pour les autres qui vont venir. Bon, est-ce qu'il faut faire ce grand Inga pour le donner à la FNEL? Moi, je dirais non, ça ne sert à rien. Parce que s'ils ne sont pas parvenus à gérer ce qui est petit, mais les tout grands comme celui-là, comment ils vont le gérer? Ce que je veux que mes compatriotes acceptent, c'est ceci. Nous avons des potentialités que nos frères africains, d'autres pays africains n'ont pas. Et ces pays africains sont plus ou moins en avance par rapport à nous. Nous avons l'Angola à côté. L'Angola se développe beaucoup plus que nous parce qu'ils ont beaucoup de ressources qui provenaient du pétrole. Demain, l'Angola va être en déficit d'électricité. Il va le chercher où? Ici, chez nous. Et qu'est-ce qu'il peut faire valoir? La rivière Kwango, la rivière Kasai, tout un tas de rivières qui sont les grands affluents du fleuve Congo viennent de chez eux. Mais chez eux, ils ne savent pas aménager ces cours d'eau-là. En s'appelant l'hydroélectrique, seulement ici chez nous. Sur Kassai, par exemple, il y a encore trois possibilités qu'on peut aménager aujourd'hui et avoir autour de 800 mégawatts. Donc, vous voyez tous ces problèmes-là. Il faut que mes compatriotes les mettent en leur tête. Al Kipengue disait la fois passée, j'ai cherché son nom, finalement je l'ai eu, disait la fois passée au cours de l'émission Dialogue entre Congolais, lorsque vos ressources sont convoitées par les autres et que vous n'arrivez pas à les mettre en valeur pour qu'ils puissent les bénéficier, ça va devenir pour eux une question de vie ou de mort. Et quand ça devient une question de vie ou de mort, alors on s'y met de n'importe quelle manière pour obtenir ces ressources-là. C'est ce qui risquerait d'être avec notre Inga. Il faut le faire, pour servir les autres, tirer les dividendes, aménager d'autres ressources ici chez nous. Je donne l'exemple. Au moment où nous parlons, si on dit qu'il faut arrêter Kakobola et Katende parce qu'on veut faire le grand Inga, là, c'est une diversion. Il faut faire Katende, il faut faire Kakobola, il faut faire encore d'autres centrales sur plusieurs autres cours d'eau que nous avons à l'intérieur. C'est ce cours d'eau-là, c'est ces centrales-là qui vont plus bénéficier à notre population.
Merci.
Le grand Inga va être destiné à l'exportation. La nature a voulu que ce soit ainsi, il faut que nous puissions l'admettre.
Merci ingénieur Victor Kendi, bienvenue Marie Bakoumania. Nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de Kananga au Kasaï occidental.
Maître Adrien Ilobaku Ipero à Kananga, au Kasaï occidental. Je pense, à mon humble avis, que pour que ce projet ait des impacts visibles de développement dans notre pays, il faut que les décideurs politiques commencent d'abord à servir la population congolaise, et cela dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, avant de servir d'autres pays.
Améliorer la desserte intérieure, bienvenue Marie Bakoumania, était-ce un préalable?
Oui, absolument, c'est un prix. On peut pas, la population ne pourra pas accompagner ce grand projet, qui est un projet complexe, si il n'a pas, elle n'a pas l'impression, vous l'avez dit, la population, elle n'a pas l'impression qu'on s'occupe un peu de ces problèmes. Et là, on ne doit pas seulement se focaliser sur les sites d'Inga. Il y a plusieurs sources d'électricité qu'on peut explorer. Il y a l'éolienne, il y a la biogaz, toutes ces formes d'énergie peuvent être explorées à moindre coût, parce que transporter, l'ingénieur Kendi a insisté, le transport du courant d'Inga vers Aru par exemple, on connaîtra beaucoup de pertes et ça demandera beaucoup d'investissements en termes de transformation, des soutirages et des transformations. C'est dire que dans les temps actuels, il est intéressant que la population soit intéressée, soit concernée, se sente concernée par l'amélioration de la desserte, et ça passe par tous ces moyens. À mon sens, et là je reviens sur la gestion d'Inga et sur mes inquiétudes, encore une fois, si la République démocratique du Congo ne regarde que l'Afrique du Sud, pour moi ça constitue un danger. Ça constitue un danger parce que il n'y a pas que l'Afrique du Sud qui a besoin du courant d'Inga. Il y a aussi le Nigeria qui a exprimé ce souhait. Il y a également l'Égypte qui a projeté de se connecter à Inga pour obtenir de l'électricité. Je pense que le gouvernement, s'il avait réellement assuré un leadership dans le secteur, il pouvait mettre ensemble tous ces demandeurs, tous ceux qui ont besoin du courant d'Inga, et les mettre ensemble en vue de peser, de sous-peser les propositions et de prendre la proposition la meilleure. Mais là, on est quasiment pris en otage par l'Afrique du Sud. Je suis même en train de m'interroger si l'Afrique du Sud n'est pour rien dans la fin Bouta de Westcor, la fin Bouta du projet avec Bech Bibiton. Je suis en train de m'interroger si réellement le projet qui est conduit dans cette opacité que nous sommes en train de constater ne veut pas nous dire simplement que les Sud-Africains nous ont pris en otage. Et là, le gouvernement qui visiblement cède une partie des leadership à l'Afrique du Sud ne tient pas à explorer les autres possibilités.
Mais Marie Bakoumania, qu'à cela ne tienne, si le projet est réalisé, il profitera au développement de la RDC.
Bien sûr, ça profitera au développement de la RDC. Une étude que j'ai lue avec le projet Westcor faisait transparaître que le gouvernement pourrait tirer 5 milliards en termes de taxes. Et là, la production des Inga 3 était estimée à 4 000 mégawatts. Vous vous rendez compte, 4 000 mégawatts, on peut avoir 5 milliards de taxes. Ce ne sont même pas des dividendes, ce sont des 5 milliards de taxes. Et rendez-vous compte, lorsqu'on aura 40 milliards de mégawatts, c'est qu'on peut tirer et qu'est-ce que le budget de l'État peut engranger en ce moment-là.
Michel Somo, il nous reste au moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Il faut déjà conclure. En guise de proposition, de suggestion, de conseil, qu'est-ce que vous pouvez dire aux décideurs?
Je pense que les décideurs doivent regarder de plus en plus quels sont les besoins internes pour bâtir une économie nationale, parce que je reconnais que aujourd'hui la production de l'énergie électrique ne représente que le quart de la demande intérieure. On a à peu près une demande de 8000 mégawatts qu'il faut pour donner aux Congolais l'électricité, mais nous avons une production à peu près de 2000 mégawatts. C'est là où nous sommes, juste même d'ailleurs bien moins que 2000 mégawatts. On est même à 1700, 1500, etc. Mais je pense que si le gouvernement veut vraiment bâtir cette nation, ce pays, et si on veut bâtir une économie qui soit la nôtre, nous devons regarder de tous côtés pour que l'offre intérieure rencontre les besoins exprimés d'abord par la population. Et que quand nous pensons exportation, que nous considérions qu'on n'exporte que le surplus, on n'exporte pas l'essentiel, comme je le disais tout à l'heure à l'introduction. Et il faudrait donc qu'on mette en place, pour ce faire, un système financier qui nous rende indépendants, peut-être pas totalement indépendants, mais qui nous rende plus ou moins indépendants de ces capitaux étrangers, dont la condition pour leur mobilisation est une extraversion sans autre contrepartie qu'une extraversion.
Merci, Michel.
Nous allons bien sûr profiter, si nous avons les 40 000 mégawatts installés au Congo, nous allons certainement en tirer un minimum de profit, mais nous n'attirerons jamais le profit qu'il faut si nous avions investi les 80 milliards à partir de nos ressources propres.
Merci Michel Somoy. Ingénieur Victor Kendi, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire aux décideurs comme suggestion, brièvement?
La première des choses que je leur demande est qu'on se retrouve autour de la table, aux experts à la matière, pour que nous puissions, de manière rationnelle, déterminer ce que pourra être l'exécution de ce projet-là. Parce qu'ils n'ont pas eu le courage de débattre pour informer la population, mais qu'ils aient aussi l'amabilité d'inviter la population qui est autour d'eux.
Merci, ingénieur Victor Kendi. Bienvenue, Marie Bakoumania. Juste un mot pour conclure.
Ouais, pour qu'on voit en guise de conclusion, je fais bien la position de Michel Somoué. Il faut que le gouvernement reprenne le leadership. Hein. Nous allons encore pleurnicher à ce que les autres mettront de leur argent et ils vont tirer des dividendes substantiels. Il faut que les gouvernements arrivent également à investir, à mettre la main à la poche pour investir et on va tirer le maximum.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Bonne suite des programmes sur Radio Capi. Au revoir.